Ce podcast a été réalisé à partir de l'enregistrement du webinaire organisé par GPS Cancer le 2 avril 2024 sur le thème « Cancer et éducation thérapeutique du patient » avec l'intervention d'Éléonore Piau-de-Villard, patiente partenaire et formatrice à l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient de Curie, ainsi que de Claire Lambriche-Molines, infirmière en pratique avancée, spécialisée en éducation thérapeutique du patient à Curie également. Nous parlerons ici de l'éducation thérapeutique du patient, c'est quoi ?
Je vais laisser la parole et surtout présenter, parce que c'est un grand plaisir d'accueillir nos deux intervenantes. Nous avons donc aujourd'hui, nous allons laisser la parole à Claire Lambriche-Molines, qui est infirmière en pratique avancée, qui est la cofondatrice de l'unité transversale d'éducation thérapeutique de Curie, qui s'est créée en 2019 et elle va nous expliquer en quoi consiste cette unité transversale. Elle est aussi responsable du master en éducation thérapeutique à la Sorbonne depuis 2011 et actuellement, eh bien, comme je pense qu'elle avait trouvé qu'elle avait peut-être pas assez de temps ou plutôt, encore un peu de temps plutôt, elle est en train de préparer une thèse de doctorat sur le thème du bilan éducatif partagé, qui est un élément central dans le programme d'éducation thérapeutique. Donc, Claire va nous expliquer ce que c'est en gros l'éducation thérapeutique du patient, comment ça se passe aussi à Curie, comment ça peut se passer aussi dans d'autres établissements que Curie. Et puis, donc justement, Éléonore va pouvoir venir aussi éclairer de ses lumières et de toutes ses expériences. Éléonore est aussi une patiente partenaire. Elle intervient aussi dans l'unité transversale éducation thérapeutique du Curie. Elle est aussi formée à l'activité physique. Elle a créé l'association Lymphosport, qui fait partie aussi de GPS Cancer. Et elle intervient dans différents champs et auprès de différents organismes. Et elle vit aussi au jour le jour ce que c'est que de faire de l'éducation thérapeutique du patient. Donc, si vous en êtes d'accord, mesdames, je vais laisser d'abord la parole à Claire, parce que Claire va donc nous expliquer qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique du patient. Parce que moi-même, je me rends compte en donnant des cours aussi dans l'école d'infirmière que bien souvent, c'est une notion qui n'est pas forcément très bien connue ou du moins très bien délimitée, qu'il y a des personnes qui confondent un peu les choses et on reviendra avec là-dessus sur les soins de support, l'éducation thérapeutique du patient, qu'est-ce que c'est que donner de l'information à des patients et ils pensent que c'est de l'éducation thérapeutique. Donc, éclairez-nous un peu, Claire.
Bien, merci beaucoup. Voilà, je tourne comme ça, j'espère que vous me voyez bien. Merci pour cette présentation et surtout merci de l'invitation. L'éducation thérapeutique du patient, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas en fait? Je vous avais fait une liste là de points peut-être qui pouvaient être intéressants d'aborder. Commençons peut-être par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un soin qui est au service des objectifs uniquement des professionnels de santé, ce qui est souvent le cas en fait dans les actions menées dans les hôpitaux et dans les structures sanitaires. Là, on change un peu de regard et on n'est plus au service des objectifs des professionnels de santé. Ce n'est pas un groupe de parole non plus, qui sont une structuration plutôt sous-tendue et menée par des psychologues. Ce n'est pas non plus de la réassurance à outrance, l'éducation thérapeutique. Ce n'est pas donner de l'information et des conseils. Ce n'est pas non plus une consultation de psy. Alors, mettez le psy que vous voulez derrière, psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Ce n'est pas une consultation non plus, étant donné que ce terme-là est consacré. Ce n'est pas une approche descendante ou de transmission pure. Ce n'est pas non plus des conférences. Ça peut appartenir aux soins de support, mais ce n'est pas que du soin de support. Donc ça, je crois que c'est voilà, c'est peut-être des points sur lesquels parfois il y a des zones de frottement ou de la confondance, et je trouvais ça intéressant de faire ces distinctions-là. Alors du coup, si ce n'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis quelques points. C'est permettre l'accès au savoir pour le sujet. C'est une approche qui est pédagogique dans son fondement. C'est le bilan éducatif partagé, par exemple. C'est des ateliers individuels, collectifs. C'est le développement de compétences. Ça vise l'émancipation des sujets. C'est une approche qui est plutôt incitative, voire appropriative dans la manière qu'on a de la mener. Et cela vise une amélioration de la qualité de vie des patients ou des personnes enfin, auprès desquelles on en dispense ou qui en profitent, on dira ça comme ça. Alors, je voulais vous rappeler quelques notions du cadre, dans quel cadre est-ce qu'on fait de l'ETP en France. Et donc, je trouvais ça important de rappeler que en France, il y a un cadre législatif pour l'ETP, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays du monde, il faut le savoir. L'ETP a mis longtemps à se développer chez nous, mais depuis qu'elle est développée ou en tout cas reconnue, elle a été directement mise dans la loi, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Elle est dans la loi Hôpital Santé Patient Territoire et il y a des décrets d'application qui finalement permettent de la demander ou d'y faire appel comme un droit aux soins, un droit aux soins éducatifs. Excusez-moi, j'éteins ma lumière. Voilà. Elle est donc, cette ETP, dans la loi. Il y a des décrets d'application qui permettent de mettre en place cette loi et de faire appliquer cette loi, qui instaure une obligation de formation aussi, notamment, on le verra tout à l'heure. Elle est donc, dans la déclinaison de la loi, soumise aux ordonnances aux établissements, c'est-à-dire ce qu'on appelle la certification. Donc, les institutions et les tutelles qui passent dans les établissements tous les 4 ans surveillent qu'il y ait bien de l'éducation thérapeutique développée dans les établissements. Donc, ça, c'est important, je crois, à savoir. Et au niveau législatif, ben, on va dire, confiée à des acteurs statutaires, notamment dans les textes, c'est des professionnels de santé et maintenant des patients partenaires formés à l'éducation thérapeutique. Alors, moi, je vous avais mis en questionnement et les autres professionnels, point d'interrogation, parce qu'on verra qu'il y a, comme pour tout, des zones là de flottement, ce que j'appelle des zones grises qui sont intéressantes à aller explorer. Par rapport au cadre philosophique ou politique de l'ETP, on peut dire que l'éducation thérapeutique, finalement, en tout cas telle que je la conçois ou telle qu'on la conçoit à l'Institut Curie, c'est un parti pris d'une posture incorporée aux soins. La posture éducative qu'on vit comme vraiment attenante, faisant partie des soins. Elle est à visée émancipatoire de l'individu ou du malade. Donc ça, c'est vraiment la visée. Et puis, c'est vivre la maladie comme une occasion d'apprentissage. Tout ça en lien avec de la démocratie sanitaire. Ce que je vous avais mis également, ou ce que je voulais aborder avec vous, c'était les points de vue, par exemple, de personnes comme Philippe Lecor, qui est un psychologue, hein, qui a beaucoup travaillé sur ce champ-là, qui définit l'ETP même comme un soin qui serait qui considérerait même le caractère de subsidiarité de la fonction éducative, c'est-à-dire reconnaître le sujet dans sa position d'auteur de sa vie et de ce fait de se placer pour le professionnel de santé dans une simple position d'appui, une position d'auxiliaire en fait. Et donc, c'est abandonner une position d'expert qui saurait le bien de l'autre et voudrait l'y conduire, et plutôt utiliser cette position d'accompagnateur et laisser l'autre déployer sa vie avec sa logique interne, sa temporalité, son sens à lui et ses priorités propres. Donc ça, on voit bien que cette posture-là, pour les professionnels de santé, c'est une grosse remise en question, c'est compliqué, c'est pas, on va dire, enseigné ou inné, c'est-à-dire ce n'est pas la manière, excusez-moi, ce n'est pas la manière qu'ont les instituts ou les formations de forger les professionnels de santé. En général, ce sont des gens qui se pensent experts et puis qui imposent leur savoir. Et là, on voit bien qu'on doit adopter une autre posture. On prendra le point de vue de Brigitte Sandrin-Berton qui, elle, nous dit que lorsque le patient n'est plus l'objet, mais le sujet des soins qui lui sont délivrés, alors l'objectif n'est plus de lutter contre les maladies, mais de promouvoir en fait la santé. Et du coup, la démarche de prescription va laisser place à une démarche d'éducation. Parce que si on doit promouvoir la santé, finalement, il faut que la personne se retrouve à hauteur, se retrouve, retrouve son agentivité dans les décisions prises pour elle, pour sa santé. Le dernier point, le dernier point que je voulais soulever théorique, c'était le point de vue de Catherine Toretti, que probablement les gens connaissent, qui est à l'origine de la fondation de l'Université des patients, qui, elle, en termes de cadre philosophique et politique, mettra l'accent sur la reconnaissance de l'expérience des patients et notamment la reconnaissance du travail du sujet, de la construction du sujet à l'occasion de l'expérience de la maladie comme un travail.
Oui,
Donc voilà.
elle insiste beaucoup sur cet apport du savoir expérientiel et de l'importance et de ce que ça peut aussi apporter à la société.